Gloire à Dieu. Nous sommes dans notre deuxième phase de l'enseignement sur les aînés, les parents et les autorités. Donc le dimanche précédent, nous avons commencé ce sujet à cause de ce que nous constations dans la société, une grande déstructuration des familles, la déstructuration des quartiers, des communautés en faveur de l'égoïsme et de l'individualisme qui amène un désordre réel dans l'humanité. Autrefois, les gens étaient unis. Je ne dis pas qu'ils étaient dans une relation parfaite, mais ils étaient unis dans des familles, unis dans des communautés. Ça donnait une cohésion à la société. Aujourd'hui, il y a une déstructuration de la société due à l'égoïsme, à l'individualisme et surtout au refus d'accepter l'autorité, en commençant par l'autorité de Dieu. Dans une société où il n'y a pas d'autorité, c'est le désordre. Personne n'est là pour faire régner la loi, ni unir les gens. L'autorité, ce n'est pas seulement pour sanctionner les irrégularités, mais c'est aussi pour unir, donner une ligne, une orientation à une communauté. Et nous disons qu'à notre époque, il n'y a plus de respect d'autorité, il n'y a plus de respect de parents. C'est ça qui entraîne la déstructuration des familles, la déstructuration des communautés. Les gens vivent dans un individualisme total et nos sociétés perdent totalement la cohésion. Et c'est pourquoi le mal ne fait que grandir pour amener les gens à la destruction totale. Voilà, nous avions commencé donc ce sujet le dimanche passé en insistant en première partie sur le devoir des enfants, le devoir d'une catégorie à obéir à l'autorité, aux aînés et aux parents, en particulier parce que les parents sont plutôt des autorités naturelles. Voilà, les parents sont des autorités naturelles. Et nous avions insisté en donnant des versets qui montraient que lorsque nous n'obéissions pas aux autorités, nous étions en rébellion vis-à-vis de Dieu lui-même. Donc, nous avons lu ces passages-là. Et lorsque les enfants n'obéissent pas à leurs parents, ils étaient sous la malédiction. Et dans ce passage qu'on avait lu, c'était écrit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps. » Et nous avions expliqué que les problèmes qui arrivent à beaucoup de personnes sont dus au fait qu'ils n'ont pas honoré leurs parents, ils n'ont pas la bénédiction, ils ont plutôt la malédiction. Il y en a qui meurent vite, il y en a qui attrapent des maladies normalement qu'ils auraient dû peut-être attraper 30 ans plus tard, mais à cause des malédictions, il y a des jeunes qui attrapent des maladies bizarres, d'adultes, de vieux. Et nous avions déploré davantage l'irrespect, le manque de respect de ceux qui ont eux-mêmes des enfants. Voilà, donc il y a des gens qui ont des enfants aujourd'hui et qui continuent malgré tout à ne pas respecter leurs parents, à ne pas honorer leurs parents. Et nous avions dit que c'était encore plus grave, parce que quand on a été impoli autrefois, quand on a été irrespectueux autrefois, et qu'on a ses propres enfants, on se rend compte que il faut donner une bonne éducation à ses enfants. Et on se rappelle les efforts des parents pour nous donner la nôtre et on devient respectueux, peut-être sur le tard, tardivement, mais on le devient quand même. Parce que les gens ne nous connaissent pas, ils ne savent pas ce que nous, on est, nous étions quand nous fûmes au collège, à l'école primaire. Nous n'étions pas toujours des enfants obéissants, mais quand nous avons eu nos propres enfants, nous avons compris combien les parents ont souffert pour nous, puisque nous étions en train, nous-mêmes, de travailler. Et ça change la relation avec les parents. On commence à leur parler avec beaucoup plus de respect. Nous avions bien dit le dimanche passé que nous n'appelions pas à la soumission aveugle aux autorités ni aux parents, mais nous en appelions à la conception de la logique d'ordre. Que quand il y a une autorité, c'est pour qu'il y ait une construction ordonnée. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, s'il n'y a pas de chef de file, les constructions ne seront pas ordonnées. Si vous construisez un immeuble et qu'il n'y a pas d'architecte qui donne le plan, qui donne l'ordre de construction, le peintre risque de mettre la peinture avant que les plombiers ne passent, avant que l'électricité ne passe, et ça serait un double travail plus tard. Donc il faut bien un organisateur qu'on appelle architecte qui non seulement a le plan général, mais a aussi l'ordre d'intervention de chaque corps de métier. Donc, nous n'appelions pas à la soumission aveugle. Nous avions dit que lorsque l'ordre que te donne une autorité contredit la vérité, contredit Dieu, on n'est pas contraint d'obéir à cet ordre. Mais lorsque nous sommes dans la phase où on nous donne des ordres concernant la logique de construction qui fait de cette personne une autorité, on obéit. Imaginez par exemple un pilote qui n'obéit pas aux opérateurs, j'ai oublié comment, au contrôleur de l'espace. C'est-à-dire quand un pilote approche un aéroport, les contrôleurs lui donnent des instructions. Vous attendez une minute avant d'amorcer la descente, et puis là, vous pouvez, prenez la piste 2. Imaginez qu'un pilote dise, oh, mais moi, je ne vais pas suivre tout ça, je prends la piste 3. Et c'est la collision avec un avion, ça fait 600 personnes qui meurent. Vous voyez, donc quand nous parlons de l'obéissance à l'autorité, ce n'est pas dans le sens d'une soumission aveugle, c'est dans la logique d'ordre. Quand il y a les autorités, ça permet l'ordre et le fonctionnement. C'est ça qui a été le sujet du dimanche précédent. Et on pourrait toujours, je vais faire en sorte de finir un peu plus tôt pour qu'on puisse y avoir des questions, peut-être d'une manière globale, 5 ou 6 questions. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de bergers, des autorités elles-mêmes. Donc leur comportement, comment ça doit être? Parce que quand on a dénoncé le mauvais comportement des enfants d'aujourd'hui, et quand je dis enfants, il y a aussi des parents qui sont encore enfants, ils ont encore des parents, mais qui ont un mauvais comportement. Nous avions donné le fameux exemple des parents qui avaient mis leur propre père, donc un papa qui avait mis son père dans une chambre un peu annexe à la maison principale. Ce monsieur ne bénéficiait pas du chauffage général et en plus on lui avait donné une couverture menue. Et qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, ce papa vient dans la chambre de son père à lui, donc qui est le grand-père de son enfant. Il voit la couverture coupée à moitié et il cherche à savoir qui a coupé la couverture de son père. Mais son fils lui dit: c'est moi qui ai coupé la couverture pour te la réserver quand toi aussi tu auras cet âge-là. Vous voyez, ça c'est une histoire qu'on rencontre en France depuis, dans les années, voilà, il y a 40 ans, il y a 50 ans, pour interpeller les gens qui malmènent les gens qui les ont fait étudier, qui les ont emmenés à l'école, qui les ont protégés quand ils étaient enfants. Maintenant qu'ils deviennent vieux, on les met à l'écart et dans une indifférence criminelle. Et l'enfant dit, ben moi aussi je garde la couverture pour toi la moitié. Donc comme ça, quand tu seras grand, quand tu seras vieux, je te la donnerai. Nous avions dit que lorsque des gens qui ont des enfants se comportent mal vis-à-vis des autorités, ils empêchent ces enfants d'entrer dans le respect de l'autorité et dans leur propre respect à eux-mêmes, et ça tournera contre eux-mêmes un jour. C'est ça la réalité. Donc ça, c'était le dimanche précédent. Aujourd'hui, nous voulons parler des autorités qu'on peut appeler aussi bergers. Voilà, les autorités sont des bergers, sont des architectes, dont nous voulons parler de l'attitude qu'ils doivent avoir. Mais avant tout, nous lisons Romains 13.1 qui nous donne la notion générale d'autorité. Romains 13.1, nous relisons puisque nous l'avons lu la dernière fois. Romains 13.1.
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
Nous pouvons continuer.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur.
Voilà, ce passage nous expose le principe d'autorité. Le principe d'autorité est un principe divin, Dieu lui-même étant l'autorité suprême. Et le dimanche passé, nous avons dit que lorsque les gens n'obéissent pas aux autorités, en réalité, ils sont en rébellion contre Dieu lui-même. Ils ne veulent pas de Dieu lui-même comme autorité. Certains disent, j'obéis à Dieu, mais moi, un homme, je ne me soumets pas à un homme. Oui, mais sauf que Dieu, on ne le voit pas. On peut feindre une obéissance qu'on ne peut pas vérifier. Mais la vraie obéissance à Dieu consiste à obéir aux autorités déléguées par lui. C'est ce que nous lisons dans ce texte. Toute autorité sur terre a été instituée par Dieu. Donc les autorités terrestres, parents et autres sont des autorités par délégation. C'est Dieu qui est l'autorité suprême qui donne des sous-autorités à d'autres personnes dans une logique de construction, dans une logique d'arbre. Dans un arbre, il y a un seul tronc et il y a plusieurs branches. C'est la même chose avec l'autorité divine. C'est Dieu qui est le chef, c'est Dieu qui est l'autorité et il fait des délégations aux parents, aux professeurs, aux présidents, aux ministres, aux chefs d'entreprise. Ce sont des autorités déléguées. Alors, c'est ce que nous dit ce Romains 13. Nous répétons une fois de plus, nous n'appelons pas à la... Parce que l'habitude des humains, c'est de dire, même quand il est mauvais, même quand ceci... Non, on n'a pas dit ça. Ce texte nous dit que nous devons obéir aux autorités dans leurs prérogatives concernant la construction qui se fait. Voilà. Donc, si aujourd'hui, tu es steward dans l'avion, tu es hôtesse... Dans l'avion, il y a un commandant de bord. Donc, s'il donne une instruction concernant l'histoire de l'avion, le fonctionnement de l'avion, du vol, tu dois obéir. Maintenant, s'il te dit, non mais, la couleur de ton vernis ne me plaît pas, change de couleur, ben là, c'est autre chose. Voilà, donc on ne parle pas de ça. Ce texte nous dit que nous devons obéir aux autorités dans leur... rayon de travail qui fait qu'ils sont notre autorité. Donc le président, quand on voit le président, on doit lui vouer un certain respect lié à son rang. C'est ce qu'on vient de lire. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc ce n'est pas, comme on a vu dernièrement, un certain Benatar dans la délégation française au Maroc, il était en jogging alors qu'il y avait des autorités qui étaient là, le président, lui il est dans la délégation en jogging. Donc c'est des gens qui ne respectent pas l'autorité. Voilà. Donc, quand on est face à l'autorité, rendez la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est respecter Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui a établi tout cela. Et même un jour, vous aussi, vous serez autorité. Vous voudriez qu'on ne vous respecte pas dans votre fonctionnement. Non, vous voyez. Donc, c'est ce que Dieu nous demande. Alors, nous disons, une fois de plus, c'est un principe divin. Qu'en réalité, tous ceux qui sont en rébellion vis-à-vis de leur autorité directe, soit en rébellion contre Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, nous ne disons pas que les autorités sont parfaites. C'est pourquoi nous voulons donner quelques conseils également aux autorités. Leur dire, ben, voilà comment une autorité devrait se comporter. Voilà. Sachant que c'est Dieu qui t'a mis là. Donc Dieu t'a mis parent. Pourquoi ? Il t'a mis parent parce qu'il comptait te confier peut-être des enfants. Voilà. Et il veut que tu aies une certaine attitude. Donc nous n'allons pas donner tort par rapport à la déstructuration de la société, donner tort seulement aux gens qui doivent obéir. Nous devons aussi parler des gens qui donnent des instructions, qui servent d'architectes, qui servent d'encadreurs, voilà, de bergers. Donc on peut les appeler d'une manière globale des bergers. Voilà, nous devons parler aussi des bergers. Alors, nous commençons en lisant un texte qui concerne le berger parfait. Le berger parfait, c'est Jésus lui-même. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Jean 10, 10 à 15, ensuite Jean 10, 27 à 29.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis.
On passe au verset 27 à 29.
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de.
Premier point. La charge du troupeau, que tu sois parent, que tu sois professeur, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois chef d'entreprise, commandant de bord dans un avion, capitaine dans un bateau, cette charge vient de Dieu. Jésus dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Donc c'est Dieu qui t'a confié ces gens-là. Que tu sois pasteur, c'est Dieu qui t'a confié un troupeau à paître. Si tu es chrétien, Dieu t'a confié ton quartier pour paître dans la prière. Pas forcément. Voilà, il y a des diverses manifestations d'autorité. La prière en est une, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais toujours est-il que nous pouvons nous retrouver dans une position de berger. C'est-à-dire que Dieu t'a confié une responsabilité concernant un certain nombre de personnes. Ça peut être juste dans la prière, tu es même dans un autre pays, mais tu penses à des personnes dans un autre pays qui sont dans une situation qui réclame l'action de Dieu. Mais tu es en position d'avoir comme charge de personnes. Déjà, il faut comprendre que ça vient de Dieu. C'est-à-dire que du moment que tu vas mal faire les choses, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Donc tu as un chef. Toute autorité a elle-même un chef. Et au minimum, c'est d'abord Dieu lui-même. Parce que la charge vient de Dieu. Donc, première prise de conscience, que tu sois parent, que tu sois je ne sais quoi, sache que tu rendras des comptes à l'autorité suprême qui est Dieu lui-même qui t'a confié le troupeau. Aujourd'hui, les gens se comportent vraiment d'une manière irresponsable. Des conflits humains entre autorités s'amènent à délaisser le troupeau. Les gens divorcent facilement. Les gens abandonnent les enfants facilement parce qu'ils n'ont pas la prise de conscience qu'ils sont des bergers que Dieu a établis sur ces enfants-là. La déstructuration de la société est due au fait que les gens sont inconscients par rapport à leur position de berger et d'autorité. Il y en a qui estiment que du moment qu'ils apportent aux enfants l'argent, le confort, ils les ont inscrits dans la meilleure école, mais ça s'arrête, c'est très très bien. Oui, non, mais ce n'est pas ça. Le travail de berger ne s'arrête pas au travail de fournisseur. Donc tu fournis l'électricité à l'enfant, tu fournis l'école, tu fournis, mais tu ne participes pas à l'éducation de l'enfant. Tu ne discute pas, tu ne partages pas des moments avec l'enfant. En quoi tu peux être berger dans ces conditions-là? Ce n'est pas possible. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui passait 24 heures sur 24 avec les gens qui l'encadraient parce qu'il voulait les encadrer comme il faut. Voilà. Donc, ça demande à se comporter comme Jésus, comme un vrai berger qui est en charge d'un troupeau par Dieu lui-même. Donc tout le monde doit penser à cela, qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Et dans ce chapitre toujours, il est dit que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Donc quand on te donne une responsabilité de troupeau, c'est pour qu'en définitive, toi, tu puisses te consacrer à ce troupeau-là et non l'inverse. Tu auras des avantages liés à ta position, mais c'est toi, tu passeras ton temps à réfléchir comment rendre ce troupeau heureux. Donc, comme on dit, femmes, soyez soumises, mais l'homme, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, le mari doit passer son temps à réfléchir comment faire que la femme soit dans la volonté de Dieu et heureuse, et à l'inverse, la femme doit lui être soumise. Voilà. Donc, quel est le rôle le plus difficile? Je pense que c'est le rôle du mari. Voilà. Puisque aimer comme Jésus aime, ce n'est pas simple. Voilà. Mais ce que nous voulons dire par là, c'est que le bon berger pense à la survie du troupeau, à la vie du troupeau, à le bonheur du troupeau. Il consacre même sa propre vie. Vous savez, quand un bateau coule, qui sort en dernier? C'est le capitaine. Donc, quand un bateau coule, c'est le capitaine qui sort en dernier. C'est seulement à notre époque que nous avons des présidents poltrons, des généraux poltrons qui dirigent les armées derrière les ordinateurs. Mais autrefois, les généraux eux-mêmes étaient en tête de leurs armées. Les présidents étaient eux-mêmes en tête. Ou bien ils étaient dans la guerre. Le moment où David a chuté d'une manière grave, c'est parce qu'il n'était pas parti à la guerre. Lui, c'était un chef guerrier. Alors il y a eu une guerre, il s'est dit, bon moi je reste au palais et puis Joab peut s'occuper de cette bataille, il gagnera, c'est pas nécessaire que j'aille. Et c'est là qu'il a commis une chute qui a entraîné la ruine de beaucoup de choses dans sa famille. Parce qu'il n'était pas dans la position d'autorité pour donner sa vie pour les brebis. Il a fait comme les généraux et les présidents d'aujourd'hui qui sont derrière leurs ordinateurs en donnant des ordres au téléphone bien protégés chez eux. Voilà. Les généraux et les présidents d'autrefois se mêlaient à l'armée en temps de guerre. Nous connaissons bien l'histoire de Napoléon à cet effet. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des bergers, c'est des administrateurs technologiques. Voilà. C'est pourquoi on les appelle d'ailleurs des technocrates. Voilà. C'est cela. Et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Un parent doit donner sa vie pour ses enfants. Parce que les enfants n'ont pas demandé à venir. Donc un parent, quand il réfléchit sur son avenir, il doit inclure les enfants dans son avenir, dans ses réflexions. Parce que c'est des gens qui n'ont pas demandé à venir. C'est toi qui les as produits. Dieu te les a confiés, donc de ce fait, tu dois y penser. Voilà. Je me souviens autrefois, il y a 30 ans, 40 ans, quand nos mères, certaines sont encore vivantes, mais quand il y avait encore et nos parents, et nos papas, et nos mamans, les mamans souvent disaient, bon, puisqu'il y avait des histoires de polygamie, d'infidélité, elles disaient, ben, je reste en foyer pour garder mes enfants. Vous voyez, donc c'était des femmes qui étaient prêtes à rester malgré tout pour protéger les enfants. Parce qu'elles se disent, si je m'en vais, je perds mes enfants, la situation va devenir difficile pour eux. Ils risquent de grandir d'une manière déséquilibrée. Je ne veux pas, je me sacrifie pour mes enfants. Mais aujourd'hui, pour entendre quelqu'un parler comme ça, c'est très difficile. D'ailleurs, tout le monde, puisque comme tout le monde est devenu égoïste, si tu parles comme ça, tout le monde te dira, mais non, pense à toi-même, pense à toi-même, pense à toi-même. Donc c'est la phrase qu'on dit à tout le monde aujourd'hui, pense à toi-même, sois égoïste, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que nous venons de lire, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est cela. Aujourd'hui même, il y a des faux pasteurs qui disent, mais quand un berger veut manger, il fait quoi? Il tue une brebis et il mange. Donc nous, ces faux pasteurs-là évangéliques, donc ils prétendent à partir de là qu'eux, ils doivent profiter des gens qui viennent à l'église. Alors que la Bible dit le contraire, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Donc c'est ça l'attitude que doit avoir un berger, une autorité, penser au bien-être de son équipe. C'est ça l'attitude. Deuxième attitude, nous allons voir ça dans Jean 17, 11 à 23. Toujours en prenant l'exemple sur Jésus. Jean 17, 11 à 23.
Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de leur ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Alors, qu'est-ce que nous retirons de ça? Est-ce qu'on est arrivé au verset 23? Voilà.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Voilà, nous avons vu à plusieurs reprises, afin qu'ils soient un, revenir. Le berger, l'autorité, le parent, le professeur, le coach doit avoir pour objectif d'unir tous les gens qui sont sous sa charge. Que les enfants soient unis, ça sert aussi à ça l'autorité. Rassembler des gens qui parfois sont en inimitié, sont en querelle, mais puisque tout ce monde-là t'obéit, te suit, t'écoute toi, ben tu les gardes unis malgré leurs différences. C'est ça l'autorité. Mais aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les familles, les gens utilisent la logique du diable. Diviser pour mieux régner. Voilà. Donc, il va prendre un enfant, il va mettre de côté, appeler de côté, critiquer un autre enfant. Tout ça parce que l'autre enfant a été impoli. Donc, pour avoir du poids sur lui, j'essaye d'attirer tous les enfants contre lui. Ce n'est pas ça le travail d'une autorité, ce n'est pas ça le travail d'un pasteur. Donc il y a des pasteurs, dès que quelqu'un les contredit, ils font une réunion en secret avec les autres responsables, les autres frères et sœurs, pour parler de celui qui les avait contredits, afin d'avoir un camp beaucoup plus grand que l'autre. Ce n'est pas ça le travail d'un berger. Le berger doit faire en sorte que les brebis soient unies. Jésus dit « afin qu'ils soient un ». C'était son objectif principal. Et vous savez, à un moment, ils avaient eu des polémiques sur qui doit être le plus grand dans Matthieu 22. Donc Jésus va dire « mais vous n'avez pas cherché qui doit être le plus grand. Au contraire, chacun de vous doit être le serviteur de l'autre. » Donc toi, tu es berger, tu es pasteur, tu es parent. On te fait un rapport sur ton enfant, sur un frère. Toi, au lieu de dire, bon, prions pour le frère que ça change. Ah oui, mais là, il a exagéré. Déjà, j'ai toujours soupçonné ce frère-là. Ah ben, bon. Donc à partir de ce moment-là, tu as créé quelque chose chez l'autre, contre. Et donc tu ne construis pas, ce n'est pas l'unité. Tu n'appelles pas au pardon, tu n'appelles pas à la construction. Au lieu de dire, bon, écoute, on va aller voir, on va aller discuter avec la personne pour régler la chose, tu prends parti et tu confirmes. Ce n'est pas un travail d'unité. C'est ça qui crée la déstructuration des familles. Il y a des gens, il y en a qui suivent le papa, d'autres qui suivent la maman, et chaque autorité que ce soit, la maman, le papa, chacun veut avoir un camp pour être plus fort. Et c'est ça qui fait que finalement, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de construction. Qui veut la destruction? C'est le diable. Nous avons lu dans Jean 10:10, le voleur vient pour égorger et détruire. Le diable veut la destruction des communautés, la destruction des familles. Il ne veut pas de groupe uni. Lui, c'est le prince de la destruction. Alors, les bergers, réveillons-nous sur notre façon de gérer les gens en charge, que tu sois professeur, que tu sois coach, quelle que soit ta situation de berger, tu dois penser à l'unité du troupeau. Il y a d'autres passages, on ne va pas les lire tous, mais nous en profitons pour donner un autre conseil. C'est que le berger est là pour former, associer les gens et les amener à la maturité. Donc tu associes plusieurs personnes pour qu'ensemble, ils atteignent la maturité. C'est ce que Jésus a fait pendant 3 ans. Donc il a prié pour eux, il les a travaillés dans les enseignements pour qu'ils atteignent une certaine maturité. La maturité finale, c'est quoi? C'est être un. C'est ça la maturité finale. Donc puisque le but, c'est une construction. Le but de tout architecte, c'est construire quelque chose. Ce n'est pas passer du temps à donner des instructions. Le but, c'est qu'il y ait un immeuble à la fin. Voilà. Donc tu as amené les gens finalement à une certaine maturité et toute leur vie, ils vont passer sur cette rue-là, vont dire ben, « c'est nous qui avons bâti ça ». Ils ont vécu une expérience de construction, ils sont arrivés à la maturité. C'est ça le but du berger, ce n'est pas de chercher à avoir raison à tout moment et étouffer les contestations par la division, donc en cherchant à avoir un camp contre un autre camp. Non, on doit se rappeler que l'autorité vient de Dieu, lui faire confiance et rechercher toujours la vérité et l'amour, Dieu s'imposera. Dieu a la puissance de dévoiler les diviseurs, de dévoiler les gens dangereux, mais ce n'est pas à nous d'organiser comme une chasse aux sorcières, une logique d'espionnage. Il y a des gens qui ont des logiques d'espionnage pour écouter ce que les gens disent quand ils ne sont pas là. Ce n'est pas bon, ça c'est la logique de division, la logique de contrôle, de manipulation. Ce n'est pas bon. L'autorité doit fonctionner dans la vérité et l'amour, comptant sur le fait que l'autorité suprême, Dieu, voit tout, et si des gens, il y en a qui sont mal intentionnés, ben il va les dévoiler. Vous savez, Jésus, même quand il a fallu parler de Judas, il n'a pas cité son nom. Voilà, il n'a pas cité son nom. Il a parlé en parabole, et puis que les sages comprennent, mais il n'a pas cité son nom. Vous voyez, donc jusqu'au bout, vous savez, quand Judas amène les soldats pour trahir Jésus, quand il vient embrasser Jésus, Jésus l'appelle comment? Est-ce que Jésus l'a appelé traître? Non, Jésus dit, mon ami, fais ce que tu as à faire. Donc trahis-moi comme tu es venu le faire. Mais il l'a appelé mon ami. Vous voyez, il a gardé une attitude de construction, laissant Dieu lui-même faire la différence, laissant le Père, et c'est ce qui s'est passé, puisque Judas était perturbé et il a fini par se suicider. Voilà, le jugement de Dieu est tombé sur lui, mais Jésus, lui, il a conservé la logique de l'appeler « mon ami, fais ce que tu as à faire ». Voilà, il a gardé une logique d'unité. Nous rappelons, je tiens à le dire tout le temps, c'est que les humains ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut forcer l'unité, nous sommes en train de dire qu'il faut respecter la logique de la construction. Le but, c'est une construction, le but, c'est l'ordre. Et la dernière fois, le dimanche passé, nous avions dit, si vous considérez que vous n'avez plus à vous soumettre à une autorité, vous quittez son rayon, vous quittez sa zone d'autorité. Vous allez dans une autre zone. Parce que vous ne pouvez pas être dans une zone de construction et ne pas obéir aux instructions de l'architecte, rechigner à tout cela, ben vous retardez la construction. Mais si vous estimez que c'est une mauvaise construction, quittez-la. Quittez cette construction. Voilà, nous ne sommes pas dans le débat sur la qualité des humains, nous sommes dans l'enseignement sur la logique de Dieu dans tout cela. Là, c'est une logique de construction et d'ordre. Maintenant, si les humains ne sont pas dignes, eh bien, soit nous devrions quitter, soit nous serons appelés à prier, mais à ne plus être en position donc, de quelqu'un dont on a besoin dans la construction. Tu te mets à l'écart et tu pries. Mais tu ne peux pas être dans la machinerie de construction et t'opposer. Voilà. Nous lisons 1 Pierre 5, 1 à 4. 1 Pierre 5, 1 à 4.
Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.
Voilà.
Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.
Voilà, une fois de plus, on nous dit, il y a un souverain pasteur, il y a une autorité suprême, devant qui nous devrons, chacun d'entre nous, rendre compte, les présidents, les rois, les gens qui ont reçu un ministère d'enseignement, tout ça, tu rendras compte de comment tu as géré tout ça, parce que c'est des délégations d'autorité venant de Dieu lui-même. Les gens qui ont été parents, voilà, tu rendras compte de comment tu as géré les enfants, parce que c'est des délégations d'autorité. Mais là, le frère Pierre dit, comportez-vous comme des modèles, pas comme des dominateurs, pas comme des chefs. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de titres dans les milieux chrétiens. Bishop, archibishop, général de Dieu. Il y a toutes sortes de titres. Les gens veulent se comporter comme des acteurs de cinéma. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils recherchent ces gars-là. Mais général par-ci, grand commandeur par-là. Mais qu'est-ce que vous recherchez? Il n'y a qu'un seul chef, c'est Jésus lui-même. Voilà. Et la logique des titres fait que il y a la jalousie, il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses. Et l'orgueil à flot, et ça ne correspond plus à l'œuvre de Dieu. Là, l'apôtre Pierre dit, vous n'avez pas à être des dominateurs, mais des modèles. C'est-à-dire que quand les autres vous observent, ils se disent, quand moi aussi je serai à ce poste, je me comporterai comme ça. C'est ça le bien comportement. Mais il ne faut pas que vous donniez envie aux autres. Vous créez de la convoitise aux autres. C'est-à-dire, quand ils te voient avec les voitures que tu as, ils se disent, ah, moi aussi, je veux ces voitures-là. Quand ils te voient avec le succès que tu as, ils disent, moi aussi, je veux ce succès-là. Là, tu donnes de la convoitise aux gens. Mais il faut que tu sois un modèle. Donc, tu donnes l'image de ce que Dieu veut que nous tous nous soyons. Mais c'est toi qui montres ça en premier. C'est ça le responsable, c'est ça l'autorité. Les gens, on peut parler, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand les gens voient, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, donc on donne des conseils aux gens, on parle. Mais quand ils vivent ça chez nous-mêmes, alors que nous pratiquons ces choses-là, ils grandissent plus vite, ils ont quelqu'un à imiter, ça coule. Et beaucoup disent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, c'est faux. Donc, dans ce cas, abandonne, ne dis plus rien. Voilà, tais-toi, c'est tout. Mais si tu dis des choses, toi-même pratique ces choses-là. Comme ça, ça permettra aux gens de voir le cas pratique. Donc, il y a eu la théorie, le cas pratique, c'est toi-même. Voilà. C'est ça que le frère Pierre dit, paissez le troupeau de Dieu comme des modèles et non comme des dominateurs. On t'a mis chef dans un bureau, chef quelque part, fais en sorte que les gens se sentent à l'aise avec toi. Les gens et sois poussé à te ressembler tellement tu montres la perfection de ce que tu leur demandes. Voilà. Tu viens à l'heure comme tu leur demandes de venir à l'heure. Voilà. Sauf incident, sauf problème. Voilà. Tu parles au chauffeur comme un employé, mais que tu respectes. Et lui, quand il voit ça, il se dit, mais voilà ce que doit être un vrai humain. Et le jour où lui sera à ta place, il respectera aussi les autres. C'est ça qui crée l'unité, la construction. Bien aimé, vous ne pouvez pas soumettre le cœur d'un homme. Vous pouvez soumettre son apparence, pas son cœur. Et le cœur, on le gagne lorsque on est soi-même fidèle à ce qu'on dit. C'est comme ça qu'on gagne le cœur. Donc quand on est dirigeant, on est parent, il ne suffit pas de donner des ordres. Il faut soi-même pratiquer ce qu'on dit. Tu demandes aux enfants de demander pardon. Quand toi aussi tu as fait une erreur, tu demandes pardon. Tu demandes aux enfants d'être à l'heure. Toi-même, tu dois être à l'heure. C'est important qu'ils aient quelque chose qu'ils voient et qu'ils comprennent ce qui a été dit à partir de ce qu'ils voient. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a envoyé son fils Jésus, Dieu lui-même venu en homme. Comme ça, les gens ont vu ce qui est Dieu. Ils ont vu quelqu'un vivre pendant 33 ans sans faire le péché, un seul jour, une seule seconde. Ils ont pu voir ça. C'est ce qu'il a fait pour nous. De sorte que ceux-là qui ont vu ça, ils ont écrit et ils nous ont donné l'héritage de leurs écrits. Donc, c'est ce que nous voulions dire. L'autorité doit être un modèle, un exemple. Maintenant, nous allons prendre une histoire négative, mais c'est une histoire instructive qui va nous révéler une des erreurs qui est commise, qui sont commises au milieu des gens qui ont une autorité, surtout les parents d'aujourd'hui qui considèrent leurs enfants comme des poupées. Ils ne veulent plus éduquer les enfants, mais ils veulent les embellir comme des poupées, comme des trophées. L'enfant n'est pas un trophée. Donc l'enfant est un agent que Dieu t'a confié à former, à protéger, à amener jusqu'à un niveau de maturité, de maturation pour être utile à tout le monde, utile à la société, être une lumière dans la société, mais ce n'est pas un trophée pour que tu brandisses « j'ai des enfants, j'aime mon enfant », non. Il faut respecter l'autorité de Dieu qui t'a donné cet enfant. Donc du coup, jouer ton rôle jusqu'au bout. Donc nous allons lire le cas de quelqu'un qui n'a pas joué son rôle et ça a créé un désordre en Israël. 1 Samuel chapitre 2, 27 à 35, ensuite chapitre 3, 10 à 14.
Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'a honoré. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Pardon. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant moi.
Voilà, donc là c'est l'histoire du souverain sacrificateur d'Israël qui se nommait Élie. Il avait deux fils, Ophni et Phiné. Ces deux fils qui était censé le remplacer plus tard, se comportait à l'inverse du rôle qu'il devait jouer plus tard. Il se permettrait de prendre les femmes et de jouer avec elles dans le temple. Il se permettait de prendre les sacrifices réservés à Dieu et les consommer. Donc ils ont fait que les gens ont haï en quelque sorte la maison de Dieu, alors que leur rôle, c'était plutôt le contraire, c'est que les gens aiment Dieu. Alors Dieu dit à leur papa Élie, ben tu ne joues pas ton rôle de berger, tu ne joues pas ton rôle d'encadreur de tes fils. Alors tu les verras de tes propres yeux, ils vont mourir en un seul jour, les deux à la fois. Tu verras que donc finalement ta descendance n'aura plus de gloire dans ma maison, ça c'est fini. Nous continuons, je vais lire donc au chapitre 3, chapitre 3, 10 à 14, il dit ceci. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Vous voyez, quelle est la faute de ce berger? Il ne réprime personne, il ne réprime pas ses fils. Il y a des parents, il y a des autorités qui n'aiment pas les problèmes, entre guillemets, et du coup, ils laissent tout faire. Non, une autorité doit jouer aussi le rôle de limiteur, d'encadreur de quelqu'un qui sanctionne le mal afin que les gens ne répètent plus, afin que les gens aussi découvrent pour certains que telle chose, c'est pas bon. L'autorité sert aussi à cela, en gros, à dire la vérité, à faire appliquer la vérité. C'est ça l'autorité, à faire appliquer la justice, de sorte que quiconque, que ce soit ton enfant, que ce soit une brebis, que ce soit quelqu'un au travail qui ne respecte pas les règles, qu'on lui notifie cela et s'il n'y a pas de remise en question, à un moment donné, on prend une sanction. C'est comme ça que les gens se rendent compte qu'il faut respecter les choses. Donc, l'autorité ne doit pas se laisser faire et devenir complice de tout ce qui se fait en dérèglement sous sa juridiction. Ce n'est pas bon. Il devient complice. On l'a mis aussi là pour maintenir de l'ordre. Souvenons-vous de deux termes, ordre et construction. Voilà le but de l'autorité.